Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Est-ce que vous connaissez les conversations à risque? Comme par exemple parler de science à un sceptique, d'histoire à un amateur du point Godwin, ou des élections avec tonton bourré au réveillon. On a envie de convaincre, même si on sait que ça va finir en embrouille. Eh bien en France, ce genre de sujet a même un boss au tournant des 19e et 20e siècles, le king du clash, l'affaire Dreyfus. C'était impossible d'en parler dans la rue, au boulot ou même entre amis ou en famille. Tout le monde se déchirait pour savoir qui était Dreyfusard ou anti-Dreyfusard.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Pourtant, à la base, l'affaire Dreyfus, c'est pas ouf. Juste un cas d'espionnage. Et l'histoire aurait très bien pu passer à côté. Mais le contexte a tout fait. Il y avait quelque chose de pourri, des luttes de pouvoir et des tensions. Et l'affaire a réveillé le dragon qui dort. Tout ça a viré à l'erreur judiciaire, au scandale historique et même à une crise politique qui a secoué toute la Troisième République. Il faut imaginer l'ambiance qui règne à l'ambassade d'Allemagne à Paris en 1894. Depuis 25 ans, les deux pays se sont affrontés et l'Allemagne, victorieuse, s'est emparée de l'Alsace-Moselle. Contrairement aux clichés côté français, on n'est pas forcément obsédé par la revanche. D'ailleurs, il faudra attendre encore 20 ans avant la Première Guerre mondiale. Mais n'empêche, une nouvelle confrontation reste possible. La plupart des gens la craignent, mais quelques-uns l'attendent, voire se préparent au cas où. Voilà pourquoi Maximilian von Schwarzkoppen travaille à l'ambassade. Cet attaché militaire a un travail, réunir un max d'informations sur l'armée française, y compris par l'espionnage. Voilà aussi pourquoi Marie Bastiane, sa femme de ménage, vide régulièrement sa corbeille à papier. Et oui, la Française travaille en réalité pour le contre-espionnage. Elle surveille l'Allemand qui les surveille. Et tout ce petit monde se tourne autour jusqu'en septembre 1894, justement. Ce jour-là, la pêche a été bonne pour Marie Bastiane. Elle sort de la poubelle un curieux document, le bordereau dans lequel un inconnu promet à Maximilian de lui fournir des documents secrets sur l'artillerie française. Dès qu'il l'apprend, le chef du contre-espionnage Jean Sandherr contacte le général Auguste Mercier, qui est le ministre de la guerre. On ouvre une enquête sur les officiers d'artillerie et très vite, on soupçonne l'un d'entre eux, Alfred Dreyfus. En fait, Dreyfus a un CV assez banal. Mais la faute à pas de chance, son profil est décortiqué par les enquêteurs bourrés d'a priori. Par exemple, alsacien d'origine, il a fui son pays par patriotisme pour rester français. Mais on va interpréter tout ça à l'envers. Et si c'était un Alsacien pro-allemand infiltré? Ensuite, c'est un polytechnicien qui est monté en grade à force de travail et de mérite. Là encore, nouvelle interprétation, chez les vieux gradés très aristocrates, on soupçonne la jeune génération qui marche au mérite. Enfin, le troisième clou du cercueil, Dreyfus a le malheur d'être juif. Or, l'état-major de l'époque est particulièrement antisémite. Mais tout ça, c'est secondaire, faudrait prouver le crime, le motif, la façon de procéder. Et donc, on parle d'une enquête. Sûrement que de simples intuitions nationalistes, générationnelles ou racistes dans un pays moderne comme la France, ça ne va pas compromettre l'enquête et le procès. Eh bien si, Dreyfus est perçu d'office comme un coupable idéal et les enquêteurs vont donc tout interpréter dans ce sens sans plus chercher objectivement qui est l'espion. C'est donc pour l'épingler qu'on analyse l'écriture de Dreyfus. Le commandant Armand Dupaty du CLAM, graphologue très amateur, compare les deux écritures. Même lui, avec ses faibles compétences, a un sacré doute. Mais il finit par conclure que Dreyfus a bien écrit le bordereau. Le criminologue Alphonse Bertillon est lui aussi consulté. Il n'y connaît rien en graphologie, mais il voit bien que les écritures ne correspondent pas totalement. Et pourtant, il invente un nouveau concept, l'auto-forgerie. En fait, Dreyfus aurait fait en sorte de s'imiter maladroitement pour se disculper. Vous voyez le genre de faux raisonnement un peu pété qu'on est obligé d'utiliser, hein. On finit même par arrêter Dreyfus mi-octobre, par l'interroger, par lui laisser un revolver pour qu'il se suicide. Comme ça, l'affaire est classée. Clairement, on n'est plus du tout en train d'essayer de trouver le coupable. Juste un coupable. Et comme on a un juif sous la main, eh bien voilà. Et tout ça va continuer pendant toute la procédure. En conseil de guerre secret, on analyse enfin les preuves et aucune n'incrimine Dreyfus. Le bordereau raconte des départs de manœuvre ou la recherche d'un manuel de tir qui ne colle pas du tout avec l'agenda et les besoins d'un capitaine comme Dreyfus. Un dossier secret réunit toutes les autres preuves, là encore, aucune ne désigne Dreyfus. Mais comme il n'y a pas accès, il ne peut pas se défendre. De leur côté, Armand Dupaty et Jean Sandher affirment que, par accumulation, toutes ces preuves qui n'en sont pas matchent avec le profil de Dreyfus. Le 22 décembre, le capitaine est condamné à l'unanimité. Il doit être dégradé et envoyé au bagne. Tout le procès a été tenu secret, sauf le verdict qui fait l'effet d'une bombe. Sans aucune info, le grand public n'a aucune idée de ce qui se passe. Tout est résumé en un seul mot, coupable. Certains s'énervent, car si on exécute des hommes de troupe pour moins que ça, pourquoi un officier traître n'est-il pas fusillé ? Donc, à l'époque, il n'y a aucun Dreyfusard ou anti-Dreyfusard. Tout le monde est convaincu, même des gens comme Jaurès ou Clémenceau. Ce qui est assez marrant parce que, patience, les infos ne vont pas tarder à fuiter et ils vont changer d'avis. Le 5 janvier 1895 a lieu la dégradation de Dreyfus, dans la cour de l'école militaire, devant une foule immense qui se déchaîne contre le traître. Le capitaine reste digne et droit et continue à clamer son innocence. En février, il devrait être déporté en Nouvelle-Calédonie, dans une prison relativement confortable. Mais non, le ministre Mercier a modifié la loi spécialement pour Dreyfus, qui est expédié en Guyane, dans un des pires bagnes. Là-bas, le capitaine vit un enfer, il est mal nourri, totalement isolé. Son seul contact avec le monde, ce sont des lettres de sa femme Lucie, bien décidée à l'aider à prouver son innocence. D'ailleurs, un an plus tard, un élément vient tout changer. En mars 1896, le contre-espionnage fait une découverte. Il s'agit du Petit Bleu, un brouillon de télégramme écrit par notre bon vieux Maximilian von Schwarzkoppen. Maximilian écrit à un officier français pour lui dire qu'il ne souhaite plus faire affaire avec lui. Et qui est cet officier ? Eh bien, pas du tout Alfred Dreyfus, mais un certain Ferdinand Valsin-Esterhazy. Le colonel Picard, nouveau chef du contre-espionnage, mène alors l'enquête. Très vite, la culpabilité d'Esterhazy est évidente. Les différentes preuves pointent vers lui, puisqu'il a le profil avec une moralité douteuse, mais aussi le motif, puisqu'il est criblé de dettes et que la vente d'informations top secrète, ça rapporte. Picard prend le temps de monter son dossier et prévient sa hiérarchie. Sauf que depuis, on est largement sorti d'une affaire criminelle. C'est devenu politique. Le ministre et général Mercier s'est mouillé, l'état-major aussi. Bref, on ne va pas avouer qu'on a bâclé le procès, condamné un innocent et qu'en plus le vrai espion court toujours. Du coup, on se planque derrière un principe de droit. On respecte la chose jugée et on finit même par virer Picard pour qu'il se taise. Finalement, cette affaire est un peu minable. Un officier médiocre a voulu se faire un peu de beurre pour éponger ses dettes et a partagé des infos pas passionnantes. Et pourtant, en France, c'est devenu l'affaire du siècle. Dans les années 1890, la Troisième République est tiraillée et en crise. Les scandales se succèdent. En 1887, on découvre que les hauts militaires et des résidents de l'Élysée vendent des décorations et des contrats militaires dans des bordels parisiens. En 1889, le canal de Panama devient ruineux et sa compagnie s'écroule, engouffrant l'argent de milliers d'investisseurs. En 1894, le président Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste et son successeur, Jean-Casimir Perrier, démissionne au bout de seulement 6 mois. Il faut dire que l'échiquier politique est bouleversé. C'est fini entre le vieux clivage politique de la gauche républicaine versus la droite monarchiste et conservatrice. En effet, la gauche grandit, gonfle, mais éclate. Il y a des républicains modérés ou opportunistes qui rejettent les réformes sociales et sont donc prêts, à l'occasion, à s'allier avec la droite modérée. Plus à gauche, il y a les radicaux, et encore plus à gauche, les socialistes qui sont de plus en plus présents sur la scène politique. Et il faut ajouter qu'une partie de cette gauche commence à se réfugier dans un nationalisme antisémite. Mais attention, l'antisémitisme n'est pas du tout une idée de gauche, entre guillemets. Justement, comme les clivages sociaux ne font plus de séparation politique nette, on peut même dire qu'il est un peu partout. La presse nationaliste et antisémite se vend comme des petits pains. Dès les années 1880, le polémiste Édouard Drumont connaissait un grand succès avec son pamphlet « La France juive ». Il tente maintenant de surfer sur la vague grâce à son journal « La Libre Parole » qui se déchaîne sur Dreyfus. Un traître juif, et avec l'Allemagne en plus, ça alimente leur page. Le journaliste et politicien Maurice Barrès proclame « Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race ». En réalité, soutenir l'armée et condamner Dreyfus, c'est surtout un coup qui vise la République. En effet, l'armée est encore un bastion conservateur, peu républicain et qui ne soutient le régime que parce qu'on lui fiche la paix. Sans menace directe, on la laisse faire ce qu'elle veut dans les colonies et elle mène sa propre justice. C'est le cas pour Dreyfus, qui est jugé en conseil de guerre clos. Mais qui oserait critiquer ça ? On risque d'être accusé de traîtrise ou même d'antipatriotisme. Alors la plupart des politiques préfèrent se taire, et ceux qui osent défendre Dreyfus marchent sur des œufs. Ils n'arrêtent pas de le répéter, « Oui, je suis Dreyfusard, mais attention, je soutiens aussi notre chère armée bien-aimée. » Mais petit à petit, un petit noyau d'intellectuels se réunit autour de la famille Dreyfus pour le défendre, notamment grâce à Bernard Lazare, un écrivain juif qui avait combattu Drumont et son antisémitisme et qui publie en 1896 un ouvrage intitulé « Une erreur judiciaire » mettant en lumière les nombreuses défaillances et injustices du procès. Bien vite, d'autres écrits Dreyfusards diffusent les pièces du dossier pour démontrer justement qu'il y a erreur judiciaire. Par exemple, un jour, en lisant son journal, le banquier Jacques de Castro y trouve un fac-similé du bordereau. Il reconnaît aussitôt l'écriture d'un de ses clients, Ferdinand Esterhazy. Un des plus importants défenseurs de Dreyfus est le vice-président du Sénat, Auguste Scherer-Kestner. S'il ne parvient pas à convaincre le président de la République, Félix Faure, de réviser le procès, il rallie tout de même les politiciens Joseph Reynac et Georges Clémenceau. Il commence à y avoir donc un vrai camp Dreyfusard opposé aux anti-Dreyfusards. Des deux côtés, on retrouve de toutes les tendances politiques, de gauche comme de droite. Et avec tous ces débats, plus l'enquête de Picard, l'étau se resserre sur Esterhazy. Pourtant, à la fin de 1897, l'état-major continue de s'entêter. Après le renvoi de Picard, un certain commandant Henri s'est même chargé de forger une fausse pièce supplémentaire pour confirmer la culpabilité de Dreyfus. En janvier 1898, Esterhazy passe devant un conseil de guerre et il est innocenté à l'unanimité. Le but de cette seconde enquête était en fait de dénoncer Picard, qui est carrément arrêté. Quelques jours après, dans le journal de Clémenceau, L'Aurore, Zola publie son fameux « J'accuse ». Il dénonce les manœuvres du ministère de la guerre et l'inaction des dirigeants politiques. Zola s'expose à des poursuites, mais il sait exactement ce qu'il fait. Sans surprise, la Chambre vote à la grande majorité des poursuites contre Zola. Et c'était le but, car du coup, ça ouvre un second procès très médiatisé. Et même si en théorie cela concerne Zola, en fait, c'est une véritable tribune pour les Dreyfusards. Ils en profitent pour mettre sur le devant de la scène toutes les incohérences du dossier. À chaque fois qu'ils citent Dreyfus, le président les interrompt, répétant toujours la même phrase « La question ne sera pas posée ». Zola, parti en Angleterre avant la fin du procès, est condamné. Mais le procès reste une victoire des Dreyfusards qui ont porté sur le devant de la scène leurs arguments. Mais l'ironie, c'est qu'ils doivent aussi leur victoire à une énorme erreur de leur adversaire. En 1898, en effet, un nouveau ministre de la guerre débarque. Godefroy Cavaignac. Bien décidé à en finir, et plein de sincérité, Cavaignac rappelle à tous qu'il existe une preuve accablante de la culpabilité de Dreyfus. C'est la giga-boulette, car il ne le sait pas, mais il vient de citer le fameux faux réalisé par le commandant Henri. Le capitaine Cuignet, attaché de cabinet de Cavaignac, examine donc le papier. Et là, c'est tellement mauvais, la falsification est tellement évidente, que Cuignet convoque Henri. Henri craque, avoue tout et se suicide. Apparemment, la révision du procès semble inévitable. En plus, le président Félix Faure, qui s'y opposait, vient de mourir. Le nouveau gouvernement, dirigé par Henri Brisson, est pour que la Cour de cassation révise le cas Dreyfus. Aussitôt, les Dreyfusards durcissent le ton. Oui, le commandant a fait un faux, mais un faux patriotique. Ils soutiennent massivement sa veuve et Paul Déroulède, président de la Ligue des Patriotes, lance des menaces de guerre civile. D'ailleurs, il passe à l'acte. Le 1er février 1899, ont lieu les funérailles nationales de Félix Faure. À cette occasion, Déroulède tente de détourner une colonne militaire vers l'Élysée, une tentative assez minable puisque l'armée, légaliste, ne le suit pas. Si Déroulède est emprisonné, ses partisans ne lâchent pas l'affaire, comme en juin, lorsqu'ils agressent carrément le nouveau président, Émile Loubet, à Longchamp. Le seul crime de Loubet, c'était d'être favorable à la révision du procès. Ce climat d'ultra-violence des nationalistes finit par créer le choc nécessaire. Enfin, les forces républicaines s'unissent à nouveau. Modérés, radicaux et même socialistes se mettent d'accord. Tout ce petit monde forme le gouvernement de défense républicaine autour de Waldeck Rousseau, un vieux de la vieille devenu modéré avec l'âge. Il tiendra jusqu'en 1902, ce qui est long pour la Troisième République. C'est le signe que la crise politique s'apaise. Du coup, les élections, divisions et renversements qui, jusque-là, empêchaient les politiciens de s'engager pour Dreyfus, se sont arrêtés. La révision de son procès est donc décidée le 3 juin 1899, et fin août, Dreyfus arrive à Rennes. Mais là, surprise, la défense de Dreyfus est beaucoup moins efficace qu'à l'époque de Zola. Il faut dire que son camp a éclaté en trois. Il y a les Dreyfusards, focalisés sur l'affaire juridique, les Dreyfusistes, pour qui tout ça est l'occasion de changements politiques, et les Dreyfusiens, qui veulent juste qu'on innocente vite fait Dreyfus pour arrêter de troubler l'ordre public. Résultat, on a le droit à un verdict assez absurde. Dreyfus est reconnu coupable avec circonstances atténuantes. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, puisque comment peut-on trahir son pays avec des circonstances atténuantes ? En vrai, c'est juste une façon de couper la poire en deux. La culpabilité fait plaisir à l'armée, et la circonstance permet au chef du gouvernement de gracier Dreyfus, qui rentre chez lui, libre, mais coupable. Et puis tout ça passe vite au second plan. En 1900, c'est l'exposition universelle. Les Français ont autre chose à penser. D'ailleurs, l'historien Bertrand Joly pose la question. Au-delà des cercles parisiens et intellectuels, et le battage médiatique, est-ce que tout ça a réellement impacté les masses ? Eh bien, pas forcément, et ça ne serait pas la première ni la dernière fois qu'une élite minoritaire tourne en rond sur un problème qui ne concerne qu'elle-même. Pendant ce temps, de véritables changements bouleversent bien plus le pays. Le gouvernement de défense nationale veut déraciner les anti-républicains. Déroulède et compagnie sont condamnés, la loi de 1901 sur les associations favorise de nouvelles organisations politiques et cherche à atomiser les anciennes congrégations religieuses accusées de menacer la République. La gauche triomphe encore aux élections de 1902 et Jean Jaurès, réélu, remet sur le tapis l'affaire Dreyfus qui est enfin réhabilitée en 1906. Mais dans la vie, parfois, les innocents ramassent et les coupables s'en sortent. Et c'est en partie le cas dans cette affaire. Avec 5 années d'incarcération non comptées, la carrière de Dreyfus est ruinée. Il n'est promu que commandant alors qu'il aurait pu être lieutenant-colonel. En 1907, il prend sa retraite, mais il reviendra se battre durant la Première Guerre mondiale. Picard aussi est réhabilité, et même promu général de brigade. De 1906 à 1909, il devient ministre de la guerre de Clémenceau. Le véritable coupable, Esterhazy, s'est exilé en Angleterre. Il y meurt en 1923, sans jamais avoir été condamné. Quant au général Mercier, grand falsificateur de l'affaire, une loi d'amnistie votée en 1899 lui permet d'échapper aux poursuites. Élu sénateur en 1900, il le restera 20 ans et meurt en 1921 sans avoir cessé d'affirmer que Dreyfus était coupable. Alors, quel bilan tirer de tout ça ? L'affaire a révélé la prégnance de l'antisémitisme en France. Et il y a aujourd'hui un vrai débat entre historiens pour essayer de cerner cette question. Le choc de la Seconde Guerre mondiale en a poussé certains, après coup, à voir dans l'affaire Dreyfus les prémices de la Shoah. Mais d'autres, comme Vincent Duclert, rappellent que ce procès n'a pas entraîné le génocide. Mais c'est vrai qu'on retrouve un point commun entre le service de contre-espionnage de l'époque et plus tard la police qui participe à la rafle du Veldiv. Dans les deux cas, des motivations plutôt lâches et même une obéissance aveugle et criminelle entraînent des décisions désastreuses. L'impact de l'antisémitisme politique durant l'affaire est également très discuté. Ziv Stern, elle, voit dans la France de l'époque une matrice du fascisme. A l'inverse, Bertrand Joly souligne au contraire que les antisémites de l'époque ne passaient pas des mots aux actes. Ils n'arrivaient pas à avoir derrière eux de masse agissante, organisée. Rappelez-vous des Roulèdes, ils fantasment une guerre civile, mais personne ne le suit. On est donc très loin d'un Mussolini ou d'un Hitler qui, eux, lèvent les masses. En tout cas, on peut le dire, l'affaire Dreyfus est loin d'être finie. En 1908, lorsque Zola entre au Panthéon, le journaliste d'extrême droite Louis Grégory tire sur Dreyfus et le blesse. Malgré sa réhabilitation, certains tentent encore aujourd'hui de prouver sa culpabilité. Il n'a pas été panthéonisé en 2006, au motif qu'il était surtout une victime et n'incarnait pas le combat comme Zola. Même argument dans le film « J'accuse » de Polanski, qui est centré sur Picard et pas sur Dreyfus. Pourtant, Dreyfus a été le tout premier Dreyfusard, puisqu'il n'a jamais craqué et a toujours clamé son innocence et travaillé à la prouver, même au fond de sa cellule, en Guyane. Merci à Antoine Reich pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.